Vous écoutez France Culture.
Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Extrait de la leçon inaugurale, prononcée le jeudi 6 octobre 2011 par Barbara Romanovic, titulaire de la chaire Physique de l'intérieur de la Terre. L'étude de l'intérieur de la Terre représente un défi particulier. En effet, l'observation directe se heurte à des difficultés technologiques, en particulier la construction d'instruments de forage capables de résister aux températures élevées. Ces forages nous ont apporté des informations précieuses sur la structure et la composition de la partie superficielle de la croûte terrestre. Mais, pour en savoir plus, il est nécessaire d'avoir recours à des méthodes d'observation indirectes pour résoudre ce qu'on appelle un problème inverse. Déterminer la structure à l'intérieur d'un corps uniquement à partir de données disponibles à la surface qui l'englobe. Ainsi, devons-nous combiner différents types d'observations à la surface de la Terre pour en sonder l'intérieur, ce qui a permis le développement de plusieurs disciplines au sein des sciences de la Terre. Mesures ponctuelles et plus récemment satellitaires du champ magnétique et du champ de gravité, enregistrement des ondes sismiques engendrées par les séismes naturels, échantillonnage géochimique des roches, mesures géodésiques et cartographie géologique. Barbara Romanovic, vous êtes titulaire au Collège de France de la chaire de physique de l'intérieur de la Terre. Vous avez prononcé votre leçon inaugurale en 2011, elle est publiée aux éditions Fayard, et elle s'appelle d'ailleurs « Physique de l'intérieur de la Terre ». Alors, moi je suis quand même très intriguée, comment une femme jeune, jolie, s'est-elle intéressée à des questions aussi arides? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours?
Eh bien, mon parcours était peut-être pas très direct, puisque j'ai étudié les mathématiques pures, donc même pas les mathématiques appliquées. Et arrivé au niveau du troisième cycle, j'avais envie de faire quelque chose de plus, qui avait des applications plus pratiques. Et en me promenant dans les couloirs de l'université à Jussieu, j'ai vu une affiche pour un DEA en astronomie fondamentale. Et ce qui a attiré mon attention, c'était deux semaines de stage au Pic du Midi, dans les Pyrénées. Or, j'étais une férue de la montagne. Et donc, j'ai décidé que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, j'ai fait un DEA en mécanique céleste, donc l'application des mathématiques à l'étude des mouvements des corps célestes, et en particulier des satellites. À l'époque, on s'intéressait aux satellites qui tournaient autour de la Lune et aux satellites qui tournaient autour de la Terre et qui sont perturbés par le champ de gravité de la Terre, par les masses à l'intérieur de la Terre qui attirent de manière différente suivant où on se trouve sur l'orbite. Et à l'époque, ce qui était intéressant, c'était il y avait le concept de masse-con, c'est-à-dire les concentrations de masse dans la Lune, qui donc donnait des petites perturbations dans les orbites des satellites artificiels. Et donc, ça a été le moyen pour moi de rencontrer la géophysique, puisque on s'intéressait à l'aspect mathématique, mais en fait, les raisons pour ces perturbations étaient dans la structure de la Lune et de la Terre. Et donc, c'était un moyen d'investigation de la structure interne.
Donc vous avez passé ce DEA en quelle année ?
72.
C'était donc quelques années après 69, hein, c'est-à-dire que vraiment la Lune devenait un objet palpable.
Tout à fait, oui, on s'intéressait beaucoup à la Lune. Mais je me suis très vite portée plutôt sur l'étude de la Terre, de l'intérieur de la Terre.
Alors pourquoi la Terre ? Qu'est-ce que cette planète a de si attirant, de si attractif pour une jeune spécialiste de l'astrophysique ?
Oui, j'étais attirée par l'étude de la Terre parce que la Terre est une planète tout à fait unique dans notre système solaire, étant donné qu'elle est animée d'une tectonique des plaques, qui est aussi un concept qui a été accepté à la fin des années 60. Donc, quand moi je suis arrivée, comme on dit, sur le marché, c'était en pleine effervescence. Et les questions qu'on se posait, c'était, et qu'on se pose d'ailleurs toujours, c'était pourquoi la Terre a une tectonique des plaques et pas des autres planètes.
C'est la seule planète mouvante.
C'est la seule planète qui, à l'heure actuelle,
solaire.
A une tectonique de plaques active, où les plaques se meuvent les unes par rapport aux autres. Il y a une croûte nouvelle qui se forme à chaque instant.
Elle se heurte,
elle s'écarte.
Elle
se frotte les unes contre les autres.
Et ça n'existe nulle part ailleurs
dans notre
système solaire.
Il existe peut-être d'autres planètes dans d'autres systèmes solaires qui en ont une, mais dans notre système solaire, c'est la seule qui a cette tectonique active. Alors, la question, c'est de savoir pourquoi. Bon, c'est une question d'ailleurs qui a été débattue pendant très longtemps avant qu'on accepte la tectonique de plaques. C'était d'essayer de comprendre pourquoi il y avait la dérive des continents qui avait été proposée dès le début du XXe siècle, en 1913, je crois, ou 12, par Alfred Wegener, qui avait bien vu la correspondance entre la forme des côtes.
Une théorie qui a donc 100 ans cette année.
Oui, et il est possible qu'avant Wegener, on ait déjà remarqué cette correspondance entre les côtes de l'Afrique et de l'Europe d'une part, et de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord.
Ce puzzle, au fond, qui coïncide.
Voilà, tout à fait, comme un puzzle. C'est lui qui a proposé que les continents, au cours des temps, se déplaçaient et qu'à une époque ancienne, les continents avaient été collés les uns contre les autres pour former un supercontinent. Et c'était basé sur la forme des côtes, c'est la première observation, mais aussi sur des observations beaucoup plus précises sur les correspondances entre les roches, donc la géologie d'un côté et de l'autre de l'océan Atlantique, la géologie, la faune, la flore, et certaines autres considérations climatiques. Donc il y avait pas mal d'éléments qui collaient bien avec cette idée, mais ce qui n'était difficile à comprendre, c'est pourquoi les continents bougeraient les uns par rapport aux autres. On pensait à l'époque qu'ils bougeaient au-dessus de la croûte, qui est donc la première couche, la croûte océanique.
Et on pensait qu'ils flottaient en quelque sorte.
Qu'ils flottaient, voilà. Et on pensait que la croûte était trop rigide pour que les continents puissent se déplacer. Donc il a fallu confronter ça avec le concept de la convection dans les fluides, le concept que le manteau de la Terre, qui est formé de roches et qui donc instantanément se comporte de manière rigide, mais à long terme, donc sur des temps longs, les temps à l'échelle géologique, peut en fait se déformer de manière plastique, comme un fluide.
Alors le temps géologique, c'est quoi ? C'est plusieurs milliards d'années ?
C'est des millions jusqu'aux milliards d'années. La Terre a été formée il y a presque 4,6 milliards d'années. Et les mouvements des plaques changent au cours des temps géologiques sur des échelles de temps de l'ordre de plusieurs millions d'années. Donc c'est ça l'échelle géologique. Mais les plaques se déplacent tous les jours. Et la vitesse moyenne de déplacement des plaques les unes par rapport aux autres, c'est de l'ordre de 5 cm par an, en moyenne.
C'est beaucoup,
centimètres ou 5 cm.
C'est assez rapide, en fait.
On dit toujours que c'est la vitesse de croissance des ongles.
Romain Lubitsch, le fait que cette Terre soit mobile, au fond, et finalement en mouvement permanent, on pourrait dire.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que ça apporte de particulier, par exemple, à la vie? Est-ce que ça a une incidence
C'est une très bonne question, parce qu'on peut se demander dans les deux sens. Est-ce que la vie, est-ce que la biologie, si vous voulez, influe la tectonique des plaques, d'une part, et de l'autre, est-ce que la tectonique de plaques a une incidence sur la vie? Alors, je vais répondre, donner un élément de réponse à la seconde question d'abord. C'est qu'effectivement, dans la théorie des plaques la plus simple, les plaques sont rigides et ne se déforment qu'en bordure. La déformation est limitée à la bordure de ces plaques. Et c'est effectivement à la bordure des plaques qu'ont lieu la plupart des séismes et aussi la plupart des volcans. Donc les volcans sont associés de manière très intime avec la tectonique des plaques. Ils se produisent dans les rides océaniques au milieu des océans. C'est là que la croûte nouvelle se forme par ascension de magma. Donc on a des volcans. Mais il y a aussi dans les zones de convergence, comme au Japon, il y a des volcans qui correspondent au fait que quand une plaque plonge sous une autre, elle va déplacer du magma et donc il y a des phénomènes qui produisent du magma et donc du volcanisme. Or, ce sont dans les régions volcaniques qu'on trouve les terres les plus fertiles, en fait. Et donc, dans ce sens-là, la tectonique des plaques est importante pour notre société. Et ça a des conséquences malheureuses. C'est que quand on regarde la distribution des populations sur la Terre, on s'aperçoit que les plus grandes concentrations de populations sont souvent associées avec les bordures de plaques. Mais c'est pour des raisons évidentes quand on pense à la tectonique de plaques. La tectonique de plaques permet de faire venir du fond de la Terre, enfin, des profondeurs, des roches nouvelles. Donc elle va rendre les terres fertiles. Voilà,
je vais vous poser une question tout à fait stupide, parce que évidemment ce sont des choses passionnantes mais difficiles pour le profane. Et je voulais savoir, quand l'intérieur du volcan surgit, ce magma, ça donne une idée de ce qui existe réellement au centre de la Terre, ou qu'est-ce que c'est?
Au centre de la Terre, peut-être pas, encore que certains des produits du volcanisme peuvent provenir jusque, disons, à la limite noyau-manteau, donc 3000 km au-dessous de la surface de la Terre. Mais la plupart des produits du volcanisme proviennent effectivement du manteau, à différentes profondeurs. Si c'est du volcanisme, et on trouve effectivement, en analysant ces laves, en analysant leur concentration en différents éléments chimiques, on peut avoir des informations sur la composition chimique et aussi les phénomènes dynamiques qui brassent, si vous voulez, les éléments chimiques à l'intérieur du manteau. Donc on peut avoir des renseignements aussi sur l'évolution, si vous voulez, de la composition du manteau de la Terre, l'évolution des hétérogénéités internes, de la distribution des différents éléments au cours du temps. Donc effectivement, le volcanisme est une source d'informations extrêmement importante par l'intermédiaire des techniques de géochimie, d'analyse chimique des laves. Et un exemple très important, c'est la différence de la composition des laves qu'on trouve dans les rides médio-océaniques, où la croûte nouvelle se forme, et qui sont tout à fait en accord avec la théorie toute simple de la tectonique des plaques, et la composition des laves qu'on trouve dans des volcans en milieu de plaques, qui, eux, enfin, on n'en a pas vraiment besoin pour la tectonique des plaques dans sa version la plus simple. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'interroge sur la raison pour laquelle on a ces volcans en milieu de plaques, comme le volcan de Hawaï, qui est en plein milieu de la plaque Pacifique, et que l'on pense être dû à l'arrivée à la surface de la Terre, de ce qu'on appelle un panache mantellique, c'est-à-dire une espèce de fuseau de matière chaude qui pourrait provenir de très grandes profondeurs, de beaucoup plus grandes profondeurs. Donc ces laves échantillonneraient des très grandes profondeurs à l'intérieur du manteau, plus grandes que celles qui sont échantillonnées dans les rides.
Barbara Romanovitch, est-ce que vous pouvez nous décrire la Terre ? Il y a au centre, donc, il y a un noyau en fusion qui est composé de...
Essentiellement composé de fer. Il n'est pas tout à fait en fusion, c'est-à-dire qu'il n'y a que la partie externe qui est en fusion. Il y a une partie tout au centre de la Terre qu'on appelle la graine, qui, elle, est cristalline, qui est solide.
Dure.
Qui est solide, oui. Les premiers la Terre est formée de couches concentriques.
Bien sûr, hein,
donc
oui.
En première approximation...
Comme un oignon, enfin.
Comme un oignon, tout à fait. Donc, en première approximation, on regarde quelle est la profondeur ou le rayon, si on mesure à partir du centre de la Terre. Et donc, les premiers 1200 km sont solides. Ensuite, jusqu'à 3480 km de rayon, donc à peu près trois fois plus, c'est le noyau liquide qui, lui, est formé de fer aussi. Donc tout le noyau est formé essentiellement de fer avec quelques impuretés, un peu de nickel et un peu de ce qu'on appelle les éléments plus légers que le fer. Et la graine est formée de fer plus pur que le noyau externe. Et la raison pour l'existence de la graine, c'est que au fur et à mesure que la Terre se refroidit, la transition, ce qu'on appelle la transition de phase entre le fer liquide et sa forme solide, se réalise à des profondeurs de plus en plus faibles. Donc, au fur et à mesure que la Terre se refroidit, la graine va croître.
La composition centrale, c'est le fer.
C'est essentiellement le fer. Ah. Et ça, on le sait par confrontation des modèles sismiques, hein, des modèles de la Terre qu'on peut obtenir à partir des mesures de temps de propagation des ondes sismiques à travers la Terre, en confrontant ça avec des mesures des propriétés des roches. Et donc, en fonction de la température et de la pression, on confronte les courbes de densité qu'on obtient, d'une part, par la sismologie, et en laboratoire, on arrive très vite à la conclusion, c'est une conclusion qu'on connaît depuis les années 50, 1950, que le noyau est formé essentiellement de fer, à 90%.
Et on sait d'où vient ce fer, enfin, est-ce qu'on a une idée sur l'origine de...
Ce fer provient à l'origine de lorsque la Terre s'est formée. Il y a eu un moment où la température a fortement augmenté, à cause de simplement l'énergie de formation. La Terre s'est formée à partir de plus petites particules. Ça a commencé par la nébuleuse solaire qui, peu à peu, a formé des petits planétésimes, quoi, des petits morceaux de planètes qui se sont attirés les uns les autres pour former des corps de plus en plus gros. Et au moment de cette attraction, l'attraction gravitationnelle dégage énormément de chaleur. Donc la température, à partir du moment où la Terre était suffisamment grande, est monté suffisamment haut pour dépasser la température de fusion du fer. Et donc, alors que les roches sont plus réfractaires, donc auraient demandé une température encore plus élevée pour fusionner, les roches, c'est-à-dire les silicates dont est formé
le
manteau.
Des choses comme ça.
Voilà. Et donc, le fer a fondu, et comme il était lourd, il est descendu au centre de la Terre. Mais on a d'autres raisons de penser que c'est comme ça que ça s'est passé quand on regarde les météorites qui sont tombées sur la Terre. Parce que très souvent, les météorites ont cette composition avec un noyau, si vous voulez, de fer et une gaine rocheuse.
Évidemment, il n'y a pas que des éruptions volcaniques qui se produisent. Barbara Romanovitch, on sait par exemple, depuis... quelques années, qu'il y a eu un certain nombre de tsunamis qui ont produit des catastrophes. Est-ce que c'est du même ordre qu'une éruption volcanique ? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Est-ce que vous pouvez nous dire ?
C'est-à-dire les tsunamis.
Qu'est-ce qui bouge dans le tsunami ?
Ce qui bouge dans le tsunami, c'est l'eau des océans. Mais les tsunamis, enfin disons, ce qui crée la catastrophe des tsunamis, c'est la vague. La vague qui déferle sur les côtes. Mais à l'origine, il y a un séisme sous-marin qui, en se produisant, a déplacé le fond marin dans une direction essentiellement verticale.
Verticale, c'est
donc
ça.
Donc a soulevé le fond marin et donc a soulevé une colonne d'eau qui, en retombant, a mis en route une grande vague.
Alors donc c'est du même ordre que le volcan, qu'une éruption volcanique.
C'est-à-dire c'est relié aussi à la tectonique des plaques, comme l'est une éruption volcanique.
Absolument.
Mais c'est le processus physique est différent. Dans le cas du volcan, vous avez une éruption de magma, hein, qui vient d'une certaine profondeur dans la Terre, plusieurs kilomètres à l'intérieur de la Terre. Vous avez une chambre magmatique qui accumule des gaz et de la matière fondue et aussi de la matière solide, qui à un certain moment, dû à des conditions particulières de température et de pression, va vouloir remonter, et donc vous avez une éruption volcanique. Dans le cas d'un tsunami, c'est vraiment la base, c'est le tremblement de terre. C'est un tremblement de terre particulier qui se produit dans le fond des océans, qui soulève le fond des océans de quelques mètres, par exemple, et ça suffit pour engendrer une grande vague qui va déferler.
Parce que l'eau monte en même temps que la Terre,
au fond. L'eau monte, oui, en même temps que la Terre. Vous avez un volume d'eau qui est déplacé à cause de la hauteur du fond marin. Mmh. Pour les tsunamis en particulier, il faut des tremblements de terre très particuliers. C'est-à-dire qu'il faut que le tremblement de terre se produise sous l'eau. Hein,
oui.
Il faut qu'il déplace les fonds marins. Et il faut qu'il les déplace d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y ait une forte composante verticale. Donc il faut que ce soit un type très particulier de séisme, puisque les séismes peuvent avoir surtout des mouvements horizontaux, comme par exemple dans la faille de San Andreas. Il s'agit des mouvements de la plaque pacifique contre la plaque qui se frotte à la plaque nord-américaine. Et donc la plupart des séismes, des gros séismes, sont des glissements horizontaux. Dans les zones de subduction, au contraire, ce qu'on appelle les zones de subduction, c'est les endroits où la plaque océanique replonge dans la Terre au-dessous de la plaque, de l'autre plaque qui vient s'abuter contre elle. Et là, vous avez des séismes qui vont refléter cette situation de compression. Et donc, vous allez avoir une composante dans le déplacement dû au séisme qui va être verticale. Donc, il faut trois conditions. Il faut un séisme qui se produit sous l'eau, le mouvement de compression qui va donner lieu à un mouvement vertical important, et aussi que ce soit un très fort séisme. Donc on peut avoir un tout petit tsunami, mais qui ne va pas se voir parce que la vague va être trop faible. Il faut un magnitude 8 au moins, général, pour avoir un tsunami. Vous pouvez aussi avoir un tsunami engendré par un glissement de terrain sous-marin. Vous pouvez aussi avoir une chute,
un effondrement
Il faut qu'il soit relativement rapide pour
c'est intéressant, mais à ce moment-là la vague, alors elle se soulève pas?
Si, parce que vous avez aussi le glissement de terrain va causer un déplacement du fond marin aussi dans le sens vertical, et donc ça va aussi pouvoir engendrer.
Est-ce qu'on peut prévoir un déplacement de masse, ce genre de catastrophe? Est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de...
Alors on n'a pas les moyens de le prévoir. Mais on a des moyens très puissants d'alerte, si vous voulez. C'est-à-dire, surtout pour les tsunamis, c'est plus facile que pour les tremblements de terre, parce que la vague engendrée par le tremblement de terre va se propager relativement lentement. Un tsunami, ça se propage à peu près à la vitesse d'un avion, d'un jet, quoi, d'un avion. Et donc, si vous êtes suffisamment loin de l'endroit où s'est produit le séisme, et que vous pouvez détecter le séisme lui-même par les ondes sismiques qu'il transmet et qui, elles, se propagent très vite, à des kilomètres par seconde. C'est de l'ordre d'une dizaine de kilomètres par seconde. C'est plutôt 5 kilomètres par 5 à 10 kilomètres par seconde. Donc, vous pouvez enregistrer le séisme, analyser les ondes pour voir quel type de séisme c'est. Déjà, voir s'il est sous l'eau, quelle est sa taille, quel est le genre de déplacement qu'il va engendrer. On sait tout faire, tout ça, en temps réel, très rapidement, en quelques minutes, à quelques dizaines de minutes, on peut avoir ces résultats.
En tout cas, ce n'est pas suffisant pour alerter les populations.
C'est suffisant pour alerter les populations si elles sont suffisamment loin. Si elles sont juste dans la région du séisme, on a du mal, mais dès que vous êtes à quelques centaines ou milliers de kilomètres, vous allez avoir le temps. Et c'est pour ça qu'il y a, par exemple, un centre d'alerte au tsunami à Hawaï, parce que Hawaï a été très affecté, en particulier dans les années 50-60, par une série de très forts séismes qui ont eu lieu dans tout le pourtour du Pacifique. Donc, il y a eu des séismes en Amérique du Sud, en Chili en 1960. C'est le plus gros séisme qui a eu lieu depuis qu'on s'est mesuré de manière précise la magnitude des séismes. C'est 1960, il avait une magnitude de 9,5 sur l'échelle des magnitudes. Et il y a eu aussi des séismes dans le nord-ouest Pacifique, des séismes au Kamtchatka, dans les îles Kuriles, et le fameux séisme d'Alaska de 1964.
Oui, mais on sait pourquoi ça s'est produit.
On a quelques idées pourquoi les séismes peuvent... Il n'y a aucune de raison de penser que les séismes devraient être très réguliers. C'est des phénomènes quasi périodiques, mais pas complètement périodiques. Ils sont quasi périodiques à cause de la complexité de la structure de la croûte et qui n'est pas du tout uniforme et aussi qui entraîne une complexité dans la structure des forces, des contraintes qui vont finir par donner lieu au séisme. Et donc il y a eu autour des années 60, il y a eu une série de très forts séismes tout autour du Pacifique. Et la plupart de ces séismes étaient des séismes de zones de subduction, donc le genre de séisme qui donne lieu à des déplacements verticaux. Et de nombreux ils avaient une composante qui était sous l'eau. Et donc Hawaï a été affectée à chaque fois par des très forts tsunamis. Ils ont eu plusieurs heures, de l'ordre de 6 à 10 heures pour être prévenus. Mais bon, à l'époque, les télécommunications et les systèmes automatiques d'analyse de séisme n'étaient pas encore au point. Et donc, ils ont été, disons, bien servis au point de vue de tsunami. Et donc, il y a eu toute une partie de l'archipel des îles de Hawaï qui a été affectée à chaque fois.
Est-ce que ça peut se reproduire, ce genre de choses?
Ça peut très, tout à fait se reproduire, oui.
Barbara Romanovitch, on va reprendre les cours que vous avez donnés. Donc, 2011-2012, introduction à l'étude du noyau. Donc, on sait ce que c'est que le noyau maintenant. Historique, solidité de la graine, introduction des outils sismologiques. Je voulais vous demander si actuellement il existait au fond des moyens en laboratoire d'analyser au fond ce noyau, l'intérieur de la Terre, etc.
Alors effectivement, en fait, on a deux approches. Il y a la simulation et l'analyse. Il y a l'analyse en laboratoire des propriétés. Donc pour ce qui est du noyau, c'est surtout les propriétés du fer à haute pression et à haute température. Il s'agit d'aller jusqu'à des pressions qui sont supérieures à 300 gigapascales dans le noyau et des températures de plusieurs milliers de degrés, hein, jusqu'à 5000, 6000 degrés. Donc c'est des pressions et des températures considérables. Alors la technologie de laboratoire a énormément évolué pendant les dernières décennies et on arrive actuellement à reproduire par expérience de laboratoire ces conditions de pression et de température. Il y a encore des difficultés bien sûr techniques qui font que par exemple un des problèmes fondamentaux, c'est de connaître exactement quelle est la température de fusion du fer aux pressions de la limite entre la graine solide et le noyau liquide. Et cette courbe de température de la fusion du fer et donc ce chiffre qu'on aimerait connaître, quelle est la température à la limite entre la graine solide et la graine liquide, à la transformation de phase, donc entre le liquide et le solide, c'est encore controversé. Il y a des incertitudes de l'ordre de plus de 1000 degrés sur la question, mais on commence à converger. Et la façon... Il y a une façon, c'est la façon expérimentale. Il y a aussi une autre technique actuellement qui est une technique de calcul numérique, calcul qu'on appelle ab initio, c'est-à-dire on part des équations fondamentales de la physique pour comprendre le comportement des matériaux, donc à haute pression et à haute température. Et on arrive à avoir des estimations aussi de cette même température par ces moyens-là. Donc d'ici quelques années, je pense qu'on va converger sur une valeur de cette température de fusion du fer. Mais bien sûr, ces expériences de laboratoire et ces calculs théoriques servent aussi à résoudre d'autres questions.
Oui, c'est ça. Alors donc, c'est ce que je voulais aussi vous demander. Est-ce qu'on peut aussi penser que ça va orienter des recherches un peu nouvelles et lesquelles, Barbara Romanovitch?
C'est-à-dire, il y a d'autres questions qui se posent concernant le noyau. C'est d'abord sa composition exacte. Je vous ai dit que c'est surtout du fer,
oui,
avec, disons, 4 à 5% de nickel, qui est aussi un élément lourd. Et ensuite, il y a environ 10% d'éléments légers, qui peuvent être du soufre, du silicium, de l'oxygène. Et en fait, ça forme des alliages avec le fer. Et donc, on aimerait savoir quels sont ces éléments. Et là aussi, donc, il y a des résultats relativement divergents.
Et ça ouvre des perspectives.
C'est-à-dire, après, on aimerait savoir quel est le bilan. Par exemple, si c'est de l'oxygène, s'il y a 10% d'oxygène dans le noyau, ça a des implications sur la structure moyenne du manteau aussi, parce que, si vous voulez, combien d'oxygène y a-t-il dans le manteau, combien dans le noyau, etc. Et donc, il n'y a pas 10% d'oxygène dans le noyau, il y en a moins, mais il y a il n'y a pas que de l'oxygène dans le noyau, mais enfin, disons qu'on se pose cette question actuellement, et les expériences ainsi que les calculs théoriques permettront de répondre à ces questions sans doute bientôt. Il y a une autre question aussi d'actualité, si j'ose dire, c'est le fait que la graine, donc la graine solide qui est plus pure que le fer, donc on veut savoir exactement sa composition, qu'est-ce qu'elle expulse en se solidifiant. C'est important parce que c'est un des moteurs de la convection dans le noyau externe, qui lui-même est la raison pour laquelle nous avons un champ magnétique.
Ah oui.
C'est grâce au mouvement des particules et des électrons dans le noyau externe qu'il y a par phénomène d'induction, nous avons un champ magnétique. Et ça, c'est important pour la vie, bien sûr, parce que le champ magnétique nous protège, c'est comme un bouclier qui nous protège des radiations très fortes provenant de l'espace interstellaire et du Soleil. Voilà. La sismologie a permis de montrer il y a 30 ans, la première étude était d'ailleurs une étude française en 1983, où les sismologues ont montré que les ondes sismiques qui traversent la graine sur des trajets parallèles à l'axe de rotation de la Terre vont plus vite que ceux qui se propagent dans des directions perpendiculaires à l'axe de rotation de la Terre. Et nos premiers articles qui est paru en Nature en 1983, c'était trois sismologues français. Et donc ça a ensuite été interprété en termes d'anisotropie, c'est-à-dire que la graine, qui est formée de cristaux essentiellement de fer, aurait des propriétés anisotropes comme les cristaux de fer eux-mêmes. Un cristal de fer, la structure la plus probable dans la graine, c'est une structure hexagonale compacte qui possède des propriétés d'anisotropie. Donc les propriétés sont différentes suivant la direction dans laquelle on les regarde. Voilà. Et donc cette propriété d'anisotropie fascine les sismologues, les physiciens des matériaux et les géodynamiciens depuis ce temps-là. Et on aimerait en connaître l'origine, et en particulier les expériences de laboratoire et les calculs théoriques de physique des matériaux permettent de mieux, disons, cerner les propriétés microscopiques du fer à ces pressions et ces températures-là.
Structure et dynamique du manteau profond de la Terre, vous nous en avez parlé. Barbara Romanovitch, qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ce que vous nous avez expliqué?
C'est-à-dire, en fait, le manteau profond, ça n'est pas le manteau qu'on voit près de la surface, dont je parle dans mon cours de cette année. Le manteau profond, c'est vraiment encore assez mystérieux. Surtout à la base du manteau profond, on a vu par la tomographie sismique la présence de deux très grandes structures qui sont antipodales, c'est-à-dire qui sont opposées l'une à l'autre, disposées plus ou moins sur l'équateur, et qui sont plus chaudes que la moyenne. Quand on interprète les données sismiques, on les interprète en général en termes de température et de composition. Et ces structures doivent être plus chaudes que la moyenne, mais elles doivent être aussi de composition différente, parce que sinon, si elles avaient été simplement chaudes, elles auraient monté, elles auraient disparu depuis on pense qu'elles existent depuis au moins 200 millions d'années et sans doute beaucoup plus longtemps. Et donc, on se pose la question de savoir quelle est la nature de ces structures très énormes à la base du manteau, qui donc ont en plus une forme, si vous voulez, une distribution géographique très particulière. Et non seulement quelle est leur nature, mais aussi quel rôle elles peuvent jouer dans la convection mantellique, dans la forme de la convection mantellique. Et peut-être, on pense que sur ces structures sont ancrées ces fameux panaches mantelliques,
oui,
qui donnent lieu à ces volcans en milieu de plaques. Mais en fait, on n'en est pas encore sûr. Donc c'est un sujet important
de
recherche en géophysique.
Cours 2013-2014, donc. Le système lithosphère-asténosphère, structure, évolution et rôle dans la dynamique globale du manteau terrestre. Alors là, on n'est plus dans le manteau profond, n'est-ce pas ?
On est dans la partie superficielle, les premiers 200 à 300 km de profondeur. C'est le domaine des plaques. Donc on a ces plaques rigides, qui sont les plaques lithosphériques,
oui,
qui flottent sur une partie du manteau qui est beaucoup plus molle, qui se déforme de manière plastique. Et en fait, le but du cours, c'est d'un peu faire le tour de ce qu'on sait sur la structure de la lithosphère, qui varie suivant qu'on est dans un continent ou dans un océan. La lithosphère est beaucoup plus fine dans les océans. C'est cette lithosphère qui se forme donc aux rides médio-océaniques et qui va s'épaissir au fur et à mesure où la croûte va
s'épaissir. C'est lourd un océan, enfin.
C'est lourd, mais c'est en équilibre, c'est en moyenne en équilibre, si vous voulez, en partie dû au fait que plus vous enfoncez de la terre, plus la pression augmente, plus la densité des roches augmente. Donc il y a un certain équilibre qui se fait. Les roches les plus légères sont à la surface et les plus lourdes, donc plus profondes. Mais bien sûr, tout ça, c'est modifié par la présence de la tectonique des plaques, par la présence des mouvements de convection. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais donc la lithosphère océanique, elle est en moyenne d'environ 60 à 80 km d'épaisseur, en moyenne. Elle est très fine près des rides océaniques. Elle va s'épaissir au fur et à mesure que les plaques se refroidissent. Donc, en fonction de la distance à la plaque et de l'âge de cette portion de lithosphère. Et elles vont, donc en s'épaississant, elles se refroidissent, donc elles s'épaississent et elles deviennent un peu plus denses. Et finalement, elles vont retomber dans le manteau, dans les zones de subduction. Par contre, la lithosphère continentale est plus épaisse. Les continents ont été formés... Ah oui, ce qu'il faut aussi savoir, ce que j'ai dit dans ma première leçon, c'est que les océans sont recyclés très rapidement. Il n'y a pas de roches plus âgées que 180 millions d'années, ou 180 à 200 millions d'années dans les océans, nulle part dans le monde. Donc en fait, cette espèce de cycle tectonique nous empêche de connaître l'histoire des parties océaniques des plaques plus loin que 180 à 200 millions d'années. Par contre, sur les continents, on trouve des roches de 4 milliards d'années d'âge, et même des particules, enfin des morceaux, qui ont des âges de plus de 4,3 milliards d'années. Et ensuite, à partir du moment où on a pu dater les roches par radioactivité, donc à partir du début du XXe siècle, on a pu mettre dessus une échelle de temps absolue. Mais ceci dit, les parties les plus anciennes des continents, qui sont en fait essentielles, elles peuvent être couvertes de sédiments, mais enfin, donc les sédiments qui se forment essentiellement dans les milieux océaniques, mais elles sont surtout formées de roches qui ont été au départ formées de manière soit volcanique, ou par au moment des formations des montagnes, vous avez aussi des roches qui viennent de très profond, qui ont été recuites, si vous voulez, en passant à des grandes pressions et des températures. Donc, vous avez différents types de roches, mais au total, vous avez des portions de vieux continents qui existent, où la croûte, quand on mesure son âge, à partir des roches qu'elle contient, est très ancienne. Plus de 3 ou même 4 milliards d'années. Donc, les continents flottent si vous voulez, ne sont pas détruits au cours des reconstitutions et des mouvements des plaques au cours du temps. Et donc ça, c'est encore un peu un mystère de savoir pourquoi, comment ont-ils été formés au départ ? Est-ce que la formation des continents a été faite par les mêmes processus que actuellement la formation de la lithosphère océanique ? Ou au départ, disons, dans les temps géologiques anciens, donc dans l'archéen ou même des temps plus anciens, est-ce que les mouvements de convection dans le manteau étaient plus vigoureux parce qu'il y avait le dégagement de la chaleur était plus intense, et donc c'est à ce moment-là que la formation des continents aurait été, de la lithosphère continentale et de la croûte continentale aurait été terminée. Enfin, il y a eu un changement, si vous voulez, à une certaine époque, entre la tectonique actuelle, le régime de tectonique actuelle et le régime ancien, qui permettrait d'expliquer la différence entre les continents et les océans.
Qu'est-ce que, au fond, l'étude des autres planètes qui sont proches de la Terre, disons la Lune ou d'autres satellites, etc.
Mars, oui.
Mars
ou Vénus.
Peuvent nous apprendre sur la.
C'est-à-dire en confrontant la structure interne et la surface, enfin, les informations qu'on peut avoir à partir des surfaces, à partir de la télédétection, et éventuellement à partir des données sismiques, quand on peut mettre des sismomètres sur ces planètes. Il y en a eu sur la Lune, sur Mars, il y en a eu un, mais il n'a rien donné.
Il y en a d'autres.
Et maintenant,
il y a une
mission qui est planifiée pour aller justement installer un sismomètre sur Mars. Donc,
l'étude. Ça se passera quand, pardon ?
C'est dans trois ans.
Oui. Oh, ben c'est donc bientôt, on saura des choses.
La mission InSight, elle doit être prête dans deux ans et demi.
Et combien de temps elle va mettre pour
six mois.
Six mois pour arriver sur Mars. Et donc, vous travaillez beaucoup, justement.
Moi, c'est un de mes anciens élèves qui est chef de la partie française de la mission, de la partie sismomètre. Philippe Lenionnet, c'est un de mes anciens étudiants. Mais donc, moi, je suis ça de relativement loin, parce que je ne peux pas tout faire, mais ça m'intéresse beaucoup, bien sûr.
Oui, parce qu'on peut apprendre, en fait.
Parce que la sismologie, c'est la technique la plus performante pour étudier l'intérieur d'une planète. C'est vraiment les ondes sismiques. Quand on n'a pas les ondes sismiques, on peut faire des modèles à partir de la gravimétrie, du magnétisme, mais ces modèles ne seront jamais aussi uniques. C'est-à-dire qu'on a une variété de modèles qui peuvent aussi bien expliquer les données. Enfin, on ne peut pas vraiment faire la distinction entre ces modèles. Si on ajoute la sismologie, on peut avoir des contraintes beaucoup plus fiables sur ces modèles. Alors, en confrontant les modèles de ces planètes, leur comportement, on peut avoir des idées plus précises sur pourquoi on a une tectonique sur la Terre. Enfin, on peut en revenir à la question qu'on avait posée au début. C'est pourquoi est-ce qu'on a une tectonique des plaques sur la Terre et pas sur d'autres planètes ? On devine qu'il y a un rôle très important de l'eau. La présence d'eau sur la Terre, donc la présence de l'eau sous la forme d'une couche d'océan assez importante, joue un rôle important dans le fait qu'il y ait une tectonique de plaques sur la Terre et pas sur d'autres planètes, mais on n'en est pas encore tout à fait sûr.
Alors, juste un mot, puisque vous travaillez donc en Californie, et on dit de vous, je lis, que vous refusez tout oracle sur le Big One tant redouté.
Oui.
Alors, pourquoi on pensait que...
Parce que c'est impossible de... La prédiction des séismes est quelque chose qu'on ne sait pas faire jusqu'à présent. Et on sait en Californie qu'il y a une récurrence des séismes qui est de l'ordre de 150 ans, plus ou moins 50, si vous voulez. Après, toutes les statistiques qu'on peut faire sont des statistiques informationnelles, mais on ne peut pas dire si le séisme aura lieu. Il y en aura même deux. Il y a eu un séisme en 1857, un gros séisme qui a affecté la région de Los Angeles, qui a fait une rupture de 400 km en Californie du Sud. Et puis après, il y a eu le séisme de 1906 dans la région de San Francisco, aussi une rupture de 400 à 450 km de longueur. Depuis, ces parties de la faille sont figées, si vous voulez, et donc les contraintes s'accumulent et elles vont se relâcher un jour ou l'autre. Et ça peut très bien se produire demain, ça peut se produire dans 30 ans, dans 50 ans. En tout cas, c'est l'échéance se rapproche. Donc il faut s'y préparer, puisque cette récurrence est quand même en moyenne tous les 100 et quelques années, 150 années. Donc c'est pas tous les 3000 ans, c'est pas donc ça va nous arriver. Mais par contre, prédire le moment exact où ça va se produire, nous sommes pas capables de le faire. Nous nous orientons plutôt sur des méthodes d'alerte, comme pour les, je vous ai expliqué pour les tsunamis, les méthodes d'alerte sismique qui sont plus difficiles parce que en fait ça exploite le temps plus lent de propagation des ondes sismiques par rapport au temps de propagation des ondes électromagnétiques, des ondes radio. Ce qui fait que quand vous êtes à une certaine distance du séisme, si vous avez des capteurs qui ont déjà enregistré le séisme à l'endroit où il s'est produit, vous allez avoir quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes, si vous êtes plus loin, avant que les ondes sismiques ne vous rejoignent.
Enfin, on parle là évidemment de la Californie, mais en Europe, la ville de Bâle avait été détruite par un tremblement de terre au XIVe siècle. Oui. Et au fond, ça peut se reproduire également.
Oui, enfin, tout à fait, oui. Il y a des régions dont on pense qu'elles ne sont...
La Suisse n'est pas si sûre qu'on croit.
Non, la Suisse, qui est une région montagneuse, vous avez... là, c'est une zone de convergence, les Alpes sont encore actives. Il y a des séismes dans les Alpes tous les jours. Ils sont tout petits, on ne les ressent pas, mais il y a des réseaux de surveillance qui vous montrent bien... que toute cette zone est active et bien sûr reliée en particulier à la zone de convergence entre l'Afrique et l'Eurasie qui, elle, donne lieu à une sismicité tout autour du bassin méditerranéen. Il y a aussi des séismes très dévastateurs en Algérie, par exemple. Il y en a eu
bien sûr.
Tout de même relativement récemment en Italie et même en France, dans la région de Nice, le séisme de Lambos.
Ce n'est pas la même faille, d'ailleurs, que Bâle.
Non, ce n'est pas les mêmes failles, mais c'est la même région de convergence, si vous voulez. C'est l'Afrique qui rentre dans l'Eurasie.
Et dites-moi, je vais profiter de tout ce que vous savez. Il paraît que les volcans d'Auvergne ne sont pas éteints.
Les volcans d'Auvergne n'ont pas eu d'éruption, ça se compte en milliers d'années, je pense, mais ils ne sont pas éteints dans le sens où dans quelques milliers d'années, ils pourraient
tout à fait
se réveiller.
Thank you.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Barbara Romanovitch, titulaire de la chaire de physique de l'intérieur de la Terre. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. La semaine prochaine, dans la nuit du lundi au mardi, vous pourrez suivre les 24 heures du livre. Et le lendemain, nous retrouverons Dominique Kerwédan, titulaire de la chaire Savoir contre pauvreté dans l'Éloge du savoir. Nous retrouvons tout de suite les nuits de France Culture. Belle écoute à tous.